Je vous invite simplement à poursuivre dans la prière pour ce temps de prédication. Notre Père, merci parce que, effectivement, tu es venu à notre rencontre et tu nous fais bénéficier de beaucoup de bénédictions, de ta grâce, de ton amour. Tu nous demandes de rayonner de cela et nous voulons être maintenant à l'écoute de ce que tu souhaites nous dire par ta parole, que nous soyons attentifs, que nous puissions mettre en pratique aussi les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Merci parce que c'est toi qui mets en nous le désir et aussi c'est toi qui nous mets à l'œuvre pour te servir. Aide-nous simplement à nous laisser guider et à avoir le cœur et l'intelligence ouverts ce matin pour recevoir ta révélation. Merci pour la communion qui nous unit. Merci pour la communion en toi, que tu puisses aussi bénir cette unité des frères et sœurs. Et merci parce que c'est grâce à toi que nous sommes unis. Nous voulons maintenant être unis dans l'écoute. Au nom de Jésus. Amen. D'accord. Alors juste une petite précision, il y a effectivement un temps de prise en charge des enfants, c'est pas l'école du dimanche, c'est pas non plus une garderie, c'est un temps de prise en charge des enfants parce qu'ils vont être avec Aude, Sarah et Dominique pour préparer, pour ceux qui sont là, pour préparer aussi la période de Noël. Non, je pense que Lisa, ça va te plaire hein, si tu veux y aller. Et Gabriel aussi. C'est à la salle Henri Pitt aujourd'hui. Oui. Comme tous les enfants sont ensemble et que la salle chauffe mieux, c'est plus pratique d'aller à la salle Henri Pitt. Dominique, en fait, je t'ai cité, mais je ne sais pas si c'était prévu que tu y ailles. Comment ? Oui, en fait, je t'ai cité, mais tu voulais y aller à la garde avec les enfants, c'est ça? Oui, d'accord. Alors, je voulais pas la citer et puis, en fait, mal comprendre. Alors, lorsque j'étais au collège, alors c'était voilà, à peu près la période du collège, celui qui ne portait pas de chaussures Nike était perçu comme un ringard. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au collège de nos jours, mais il me semble que l'être humain reste à peu près le même. L'apparence et la place des marques a encore de l'importance, je pense, chez les jeunes, et pas seulement chez les jeunes. Nous vivons dans une société qui est dure envers ceux qui sont différents, ceux qui sont pauvres, ceux qui n'ont pas des vêtements ou une voiture de marque. Et parfois, il suffit juste d'avoir un petit accent, une couleur de cheveux différente, et les autres peuvent se moquer de cette personne. Malheureusement, les personnes un peu différentes ont donc plus de risques d'être victimes de discrimination, de rejet, et donc de rester mises à l'écart de la société. Il ne faut pas croire que ce phénomène est moderne ou que ce phénomène est récent. C'était déjà ainsi il y a plusieurs milliers d'années. Les chrétiens de la ville de Smyrne étaient victimes de ce genre de comportement. Peut-être que vous aussi, vous avez déjà été victime de mise à l'écart à cause de votre foi ou à cause d'une autre raison. Et à l'inverse, sans être victime, on peut parfois contribuer à ce genre de phénomène sans s'en rendre compte. Lorsque l'on accorde un peu trop d'importance à l'apparence, à la mode, au prestige, etc. Le texte que nous allons lire ce matin se trouve dans le livre de l'Apocalypse et il aborde, entre autres, ce thème. Mais avant de lire le passage concerné, voici un bref rappel de ce que nous avons vu les dernières fois. Apocalypse signifie révélation. Il s'agit des révélations que Jésus-Christ communique à l'apôtre Jean sur ce qui va bientôt arriver. Donc ce qui est décrit a déjà commencé à arriver au temps de l'apôtre, et cela se répète encore aujourd'hui. Mais ces événements ne sont pas appelés à se répéter indéfiniment, car une fin est prévue. Et l'Apocalypse décrit comment cette fin arrive. Pour ce faire, beaucoup de symboles sont utilisés, et ce sont principalement des symboles empruntés à l'Ancien Testament, aux prophètes de l'Ancien Testament. Par ailleurs, l'apôtre Jean vit dans un contexte de persécution des chrétiens. Il se trouve d'ailleurs sur l'île de Patmos, où il a été exilé à cause de sa foi. Cette île fait partie aujourd'hui des îles grecques. Jésus se révèle à Jean d'une manière glorieuse et victorieuse, afin de montrer qu'il reste le Tout-Puissant, malgré les grandes difficultés que les chrétiens subissent. Et à partir du chapitre 2, Jésus demande à Jean d'écrire des messages à sept églises en particulier. Ces églises représentent l'ensemble des églises de Jésus-Christ. Les messages leur étaient destinés en particulier, avec le contexte qui était le leur, mais il me semble que toutes les églises de tout lieu et de tout temps peuvent se reconnaître dans l'une ou l'autre situation évoquée. Le livre de l'Apocalypse a été écrit dans le but d'être envoyé intégralement aux sept églises, mais aussi aux autres églises. On sait que les communautés avaient pour pratique de copier les écrits reçus des apôtres et de les envoyer ensuite aux autres églises. Je vous propose de lire maintenant le passage concerné, le message que le Christ adresse à l'église de Smyrne dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, versets 8 à 11. Apocalypse 2, 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Jésus demande à Jean d'écrire à l'ange de l'église de Smyrne. Dans le chapitre 1, il est question des sept anges des sept églises. Ces anges sont peut-être des êtres célestes associés aux églises. Ils auraient pour mission de veiller à ce que le message soit bien transmis et de les aider à obéir. Ou alors, ces anges désigneraient les responsables des églises, étant donné que les messages sont directement adressés aux églises. Alors là-dessus, je n'ai pas une grande certitude, mais ce qui est sûr, c'est que le message est bien pour l'Église. Au verset 8, Jésus se présente comme le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Cette expression de premier et de dernier fait référence à la manière dont Dieu lui-même se présente, notamment à travers le prophète Ésaïe. Par exemple, en Ésaïe 41, à la fin du verset 4, Dieu dit « C'est moi, l'Éternel, qui suis le premier, et je serai encore le même avec les générations à venir. » Encore Ésaïe 44, verset 6, et j'en cite quelques-uns, mais il y en a d'autres. Ésaïe 44, verset 6, « Voici ce que dit l'Éternel, le roi d'Israël et celui qui le rachète, l'Éternel, le maître de l'univers. Je suis le premier et le dernier, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. » Dans l'Apocalypse, Jésus reprend exactement les paroles de Dieu pour parler de lui. Il se présente comme lui-même comme étant Dieu. Il affirme sa divinité. Cette expression présente Jésus comme étant à l'origine de toute chose. Il est le premier. Il a été auteur de la création. Il est aussi le dernier. Cela signifie qu'il sera toujours là. Il est éternel et il ne change pas. Regardons maintenant ce que Christ dit à l'Église qui est à Smyrne, au verset 9. « Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Dans les messages adressés aux sept églises, Jésus précise qu'il connaît parfaitement la situation de chacun. Dans le cas de Smyrne, Jésus connaît leur souffrance, leur détresse et leur pauvreté. Ils sont pauvres, mais ils sont riches aux yeux de Dieu. Pauvres, mais riches, c'est mon premier point. Ces chrétiens sont calomniés, notamment par ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas. Il faut savoir que Smyrne est une ville qui se trouve dans la Turquie actuelle. Aujourd'hui, c'est la ville de Izmir. À l'époque de Jean, cette ville était prestigieuse à plusieurs égards. Smyrne avait pour réputation d'être une jolie ville, certainement la plus jolie ville de la province romaine de l'Asie mineure. Les habitants accordaient une importance particulière à leur image, leur réputation, leur esthétique. C'était aussi une ville riche, une ville qui avait les moyens de montrer qu'elle était prestigieuse. Cette ville était fière d'appartenir à l'Empire romain. Selon les historiens, Smyrne avait même déjà des liens privilégiés avec Rome avant même d'appartenir à l'Empire. Grâce à cette collaboration étroite avec Rome, elle avait des privilèges et le soutien des dirigeants politiques. Les chrétiens de cette ville devaient faire face à deux groupes religieux, ou deux groupes en particulier. Tout d'abord les Juifs, qui sont opposés à la foi chrétienne. Les Juifs de l'Empire romain avaient des privilèges. Ils bénéficiaient notamment d'une tolérance particulière qui leur permettait de ne pas adorer l'empereur romain en échange d'une taxe. Ils avaient le droit de pratiquer leur religion sans être inquiétés. Les autorités juridiques devaient même s'abstenir de les convoquer durant les jours de sabbat et durant leurs fêtes. Ensuite, il y avait une population non juive, les païens. Ils soutenaient le culte à l'empereur romain. Ces citoyens devaient considérer les chrétiens comme des marginaux, des gens qui refusent le culte à l'empereur, comme tout le monde. À cause de cela, les chrétiens devaient certainement être mis à l'écart de la vie économique et sociale, ce qui expliquerait leur pauvreté, alors que Smyrne est une ville riche. Jésus leur dit qu'il connaît leur situation de pauvreté, de persécuté. Il connaît les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Cette parole contre les Juifs peut nous paraître violente. Jésus les décrit comme étant des faux Juifs. Il va jusqu'à dire qu'ils forment une synagogue de Satan. En fait, parmi les chrétiens de Smyrne, il y avait des Juifs qui avaient mis leur foi en Jésus. Comme ils étaient d'origine juive, ils bénéficiaient des privilèges accordés aux Juifs. Mais les autres Juifs, ceux qui rejettent Jésus, les accusaient de ne pas être juifs, car ils rendent un culte à Jésus-Christ et ils ne se soumettent plus aux rituels de la loi de la Torah. Ici, le Christ leur retourne l'accusation. En réalité, les Juifs qui ont mis leur foi en Jésus sont les vrais Juifs. Ce sont eux qui forment le peuple de Dieu. Jésus est le Messie, annoncé par les prophètes de la Torah. C'est Jésus qui a accompli la loi et qui met fin aux lois rituelles. Les Juifs qui n'ont pas mis leur foi en Jésus ont refusé que le Messie, que leur propre prophète annonçait, Ils ont refusé le Messie que leurs propres prophètes annonçaient. De plus, leur attachement aux privilèges romains, leur calomnie et leur persécution vis-à-vis de l'Église font d'eux des ouvriers de Satan, dans le sens où ils accomplissent ce que Satan désire. Jésus précise qu'il ne parle pas. Je précise que Jésus ne parle pas de tous les Juifs, mais il parle bien de ceux qui persécutent l'Église. Ils forment une synagogue de Satan. Dans ce contexte de persécution de la part des Juifs et de mise à l'écart de la part des païens, Jésus sait que les chrétiens de Smyrne tiennent bon. Ils sont pauvres, mais aux yeux de Dieu, ils sont riches. On imagine cette église de Smyrne avec peu de moyens. C'est probablement une communauté fréquentée par une population pauvre. Contrairement à Éphèse, Jésus ne met pas en avant la richesse de leur programme d'église ou leur dynamisme, mais juste leur persévérance dans l'épreuve. Et Dieu en est très satisfait. Contrairement à Éphèse, Dieu ne fait aucun reproche à Smyrne. Il leur demande simplement de continuer dans leur voie, d'autant plus que la persécution va se poursuivre. À ce propos, regardons le verset 10. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Jésus annonce aux habitants de Smyrne qu'ils auront 10 jours de détresse. C'est mon deuxième point. En général, lorsque l'on veut encourager une personne qui souffre, on essaie de l'aider et on lui dit aussi, on lui montre aussi le positif. On dit même parfois quelque chose qui n'est peut-être pas si approprié que cela. On dit « Ne t'inquiète pas, ça va aller mieux ». Ne t'inquiète pas, ça va aller mieux. Alors peut-être que vous ne le faites pas, mais dans la maladresse, il peut arriver que l'on entende ce genre de paroles censées consoler et encourager une personne. Ici, Jésus ne dit pas que tout va aller mieux, en tout cas pas tout de suite. Au contraire, il leur annonce les détresses à venir. Mais avec cette annonce, il les encourage à ne pas redouter l'épreuve. C'est d'ailleurs bien d'une épreuve dont il s'agit, car le diable va jeter quelques-uns en prison. Notons que ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de l'épreuve, c'est le diable. Contrairement à la pratique de notre époque, la prison n'était pas une condamnation en elle-même. Dans l'Empire romain, on mettait une personne en prison en attendant son jugement. Et à l'issue du jugement, si la personne était condamnée, il y avait soit une amende à payer, soit un exil, comme Jean qui se trouve en exil sur l'île de Patmos, soit une mise à mort. Il y aura donc des chrétiens mis en prison en attendant d'être jugés. Il y aura aussi 10 jours de détresse. Ces 10 jours de détresse vont éprouver leur confiance et leur fidélité, leur foi en sortira encore plus grande et plus glorieuse aux yeux de Dieu. Est-ce que ces 10 jours de détresse sont 10 jours symboliques ou littéralement 10 jours de 24 heures? On ne sait pas. Mais si l'on cherche une symbolique, on peut se demander dans quelles circonstances le nombre 10 est mentionné dans la Bible. Et on se rend compte que ce nombre est relativement peu utilisé. C'est surtout le nombre 12. Qui est utilisé, mais pas beaucoup le nombre 10. Mais il nous rappelle quand même quelques passages bibliques, comme les 10 commandements ou les 10 plaies d'Égypte. Et si l'on fait un rapprochement avec les 10 plaies d'Égypte, le point commun, c'est qu'il y a une période difficile. Une période difficile. L'annonce de ce temps difficile est une mauvaise nouvelle. Cela dit, 10 jours, c'est une période limitée. Que ce soit 10 jours symboliques ou 10 jours de 24 heures, il y aura une fin à cette détresse. Dieu ne permet qu'une action limitée au diable. Et plus généralement, les détresses que nous vivons sont limitées dans le temps par Dieu. Parfois, on a l'impression que notre épreuve dure longtemps. Mais comparé à l'éternité, ce n'est rien. Plusieurs fois, Jésus fait référence à l'espérance à venir. Après la souffrance, il y a la victoire. Jésus dit qu'il donnera la couronne de vie au vainqueur. Il met l'accent sur cette promesse. Il veut que l'on fasse partie des vainqueurs. Alors il insiste que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Avoir des oreilles, c'est être prêt à écouter, être disposé à écouter. Que celui qui est disposé écoute avec attention ce que l'Esprit dit aux églises. On peut noter qu'au début du message, on nous dit que c'est Jésus qui parle. Il se présente comme Dieu se présente, il est le premier et le dernier. Et à la fin, on apprend que c'est l'Esprit qui dit cela à l'Église. En fait, Jésus parle par son Esprit, tout comme il l'avait promis à ses disciples. Nous avons dans ce texte une mention du Dieu trinitaire. Jésus est Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit parle, c'est exactement comme si c'était Jésus qui parlait. Jésus est Dieu, il est le premier et le dernier, et il parle par son Esprit. Et lorsque l'Esprit parle, c'est Jésus qui parle. La dernière chose que nous pouvons relever dans les paroles de Jésus, c'est qu'il a lui-même souffert. Dès le début de la lettre à l'église de Smyrne, il se présente comme celui qui est mort et ressuscité. Celui qui est mort est revenu à la vie. C'est mon troisième et dernier point. Jésus est mort en souffrant physiquement, mais aussi moralement. Il a été trahi par son propre peuple. Il est venu apporter le pardon de Dieu au monde, et le monde l'a rejeté. Le monde l'a méprisé. On lui a mis une couronne d'épines sur la tête pour se moquer de lui, et on l'a cloué sur une croix, comme les criminels. Mais il n'est pas resté mort. Il est revenu à la vie. C'est le seul homme à être revenu de la mort définitivement. Il est le seul à avoir vaincu la mort. C'est pour cela qu'il peut nous offrir la vie éternelle. Je trouve cela très intéressant que Jésus se présente à cette église précisément comme celui qui est mort et ressuscité. Il leur fait comprendre qu'il est lui aussi passé par l'épreuve avant la victoire. Les chrétiens de Smyrne marchent vraiment sur les pas du Christ. Et c'est peut-être aussi pour cela que nous avons cette impression qu'il les affectionne particulièrement. Ils sont pauvres alors que tous les autres citoyens autour d'eux sont riches. Leur église est simple alors que toute la ville mise sur l'esthétique et le prestige. Leur foi est solide malgré la persécution. Si l'on devait comparer toutes les églises de l'Asie mineure, Smyrne était certainement la moins belle, esthétiquement, la plus pauvre. Il n'avait pas le matériel dernier cri. En gros, c'était les derniers, les plus petits. Mais aux yeux de Dieu, le plus petit, c'est justement le plus grand. Dans le royaume de Dieu, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Les chrétiens de Smyrne doivent tenir bon, car c'est une glorieuse victoire qui les attend. Verset 11, « Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. » La seconde mort est bien réelle, et Jésus veut nous en sauver. Pour conclure, nous pouvons nous laisser interpeller par les chrétiens de Smyrne qui ont accordé plus d'importance à la fidélité de Dieu qu'à tout le reste. En tant que chrétien, dans un contexte de pays riche, on pourrait tomber dans la tentation de miser sur le prestige, la réputation, l'esthétique, comme les citoyens romains de Smyrne. À l'approche de Noël, on pourrait être tenté de se dire qu'il faut absolument en mettre plein la vue au public. Si notre motivation, c'est notre propre fierté. Alors faisons attention et remettons Dieu en premier. Si notre motivation, c'est le témoignage, alors que Dieu nous inspire et nous donne sa sagesse. Dans tous les cas, ce que Jésus attend de nous, ce n'est pas avant tout d'avoir un prestige particulier, il attend de nous un témoignage dans la fidélité aux Écritures, dans la simplicité et dans la persévérance. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci pour tes encouragements. Merci parce que tu encourages ceux qui sont petits aux yeux du monde. Cette église de Smyrne est exemplaire au niveau de la simplicité, la persévérance, l'humilité, la persévérance dans la foi, dans la persécution. Seigneur, nous voulons marcher à la suite de ton Fils Jésus. Marcher à la suite dans l'humilité, la simplicité, la pauvreté, dans le sens où, même si nous avons les moyens, ce n'est pas la richesse que nous voulons mettre en avant, mais c'est bien toi que nous voulons mettre en avant dans notre vie. Aide-nous à garder cela dans notre manière de vivre l'Église, dans la manière de vivre tous les jours cette vie que tu nous offres. Aide-nous à témoigner simplement, à être fidèles, de manière humble et surtout à persévérer dans cette voie. Merci parce que c'est ton esprit qui agit, c'est ton esprit qui rend présent ton Fils Jésus parmi nous. Il est bien présent ici même ce matin et nous voulons être reconnaissants parce que Christ est mort, mais il est revenu à la vie. Après la souffrance, c'est la gloire et la victoire pour ceux qui sont attachés à toi. Merci parce que tu nous offres cette victoire gracieusement. C'est un cadeau et nous voulons nous en réjouir dès aujourd'hui. Au nom de Jésus, amen.